Après l'ensauvagement de la Domus, j'avais annoncé l'ensauvagement du campus, ou le campus au sens universitaire d'ailleurs, le lieu où l'on produit, le lieu où l'on travaille, le lieu de la production. Alors, là je vais vous proposer quelques lignes des premières, de la troisième page de Madame Bovary, et ma proposition se décline en trois moments. Typographie, sauvagerie, Lucie. Ah, j'ai forcé, mais ça marche. Lucie, c'est Lucia de la Mermour. C'est Lucie dans le texte, c'est pas Lucia, c'est Lucia. Bon, alors c'est quoi cette histoire de typographie, sauvagerie, Lucie ? Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. C'est Charles qui arrive au collège. Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible répété. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre couvert par les huées de la classe. Plus haut, cria le maître plus haut. Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot Charles Bovary. Et on va s'intéresser au paragraphe suivant, uniquement. Enfin, ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aigus. On hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait « Charles Bovary, Charles Bovary !» Puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un vent où saillissait encore ça et là comme un pétard mal éteint, quelques rires étouffés. Alors, je propose typographie qu'on s'intéresse à la parenthèse, aux parenthèses. Il y a 55 parenthèses dans Madame Bovary, que j'ai eu l'occasion d'étudier récemment, et celle-ci m'intéresse bien. Vous voyez, c'est une scène d'oralité scolaire, de chahut, et dans cette scène-là, il y a donc cette fameuse parenthèse. Parenthèse, ça m'intéresse parce que c'est de la typographie, c'est-à-dire c'est de la graphie, il n'y a pas de parenthèse à l'oral, où on dit j'ouvre la parenthèse, mais bon, c'est la raison graphique. On est dans l'écrit avec la parenthèse. On est dans la typographie ou dans l'imprimerie ici. On ouvre et on ferme ou on referme la parenthèse. Pourquoi on ouvre une parenthèse ? Et pourquoi on s'oblige à la refermer ? Ça veut dire qu'on intercale un microcosme dans la linéarité d'un discours qui est provisoirement interrompu, suspendu par une espèce d'isola, là, d'insularité, de moment d'hétérogénéité qui vient rompre la linéarité syntaxique. Normalement, il n'y a pas de lien syntaxique entre le hors parenthèse et la parenthèse, voire le lien thématique, même s'il peut y avoir un lien thématique. Bon, donc, il y a un statut déjà de singulier, oui, d'hétérotopie, d'hétérologie, d'hétérogénéité, quelque chose d'hétérogène, qui est marqué, peu ou prou, évidemment, y compris l'ambiguïté de la parenthèse qui à la fois met en arrière-plan et souligne ce faisant. Bon, donc il y a un jeu assez subtil de l'écrit avec la parenthèse. Notre ami Erasme, le humaniste du XVIe siècle, il désignait les parenthèses, il disait ce sont des lunulae, des petites lunes. En 16e, on n'y est pas là, mais on avait encore un imaginaire visuel des signes graphiques. Les lunulae, c'était les petites lunes. Vous voyez, la lune croissante et la lune décroissante. Une espèce de cosmographie qui s'était posée sur la page. C'est étrange, ça. C'est assez beau, hein, une vision cosmographique du logos. Et donc la parenthèse comme justement ce microcosme-là. Mais nous, on l'a oublié. Hein. Simplement, c'est pour dire que c'est un marqueur d'altérité. Polyphonie, bon. Dans le dictionnaire, j'y tiens, de l'Académie française, 1694, à parenthèse, en écrivant, on marque la parenthèse par deux lignes courbes. Ah, c'est les courbes, C'est plus les lunes, déjà, mais c'est, on est descendu du ciel, hein, mais c'est des courbes. C'est des courbes verticales, c'est qui viennent interrompre la linéarité de la ligne droite. C'est des courbes, c'est assez amusant. Et alors, Flaubert, il joue de ça à un moment, mais je vous donnerai référence à l'article que j'ai écrit, si ça vous intéresse là-dessus. Parce qu'on peut actualiser l'aspect pictographique du signe de ponctuation. Bon. Et quand il décrit des robes, enfin bon... une espèce de sémiotisation du signe de la parenthèse. Bon, ça, c'est pas ce qu'on voit ici, mais voilà. Bon, et alors le dictionnaire dit « On marque la parenthèse par deux lignes courbes dans lesquelles on enferme une parole autre. » On enferme une parole autre. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on enferme ici? C'est ça mon point. On peut aller assez vite, vous allez voir. C'est pas par nécessité, mais bon... Donc, il y a une pictographie, mais il peut y avoir une idiographie de la parenthèse, au sens où il y a un moment particulier du discours du roman. Alors ici, où est l'hétérophonie? Ben, elle est facile. Qu'est-ce qui est enserré dans la parenthèse, qui est protégé par la parenthèse, qui est enclos dans la parenthèse? Parce que la parenthèse, c'est la dialectique du clos et du forclos. Il y a ce qui est dedans et ce qui est repoussé dehors, ou ce qui reste dehors et qui ne rentre pas dedans. Donc c'est assez passionnant de voir ce jeu-là de l'hétérophonie. Ben, ici, ce qui est dans la parenthèse, dans ce moment de charivari, de chahut, hein, de bizutage du bleu, du nouveau, c'est ce rite éruptif du charivari scolaire, qui est un monde d'oralité, c'est-à-dire qui est au plus loin de la raison graphique. En fait, on pourrait lire, pour aller vite, je ne sais pas si vous avez trop eu la référence encore, Jack Goody, anthropologue de l'écrit et anthropologue des oralités, a publié, sous ce titre en français, passons sur l'histoire des titres, quelque chose qui résume mon propos. Si dans parenthèse vous mettez raison graphique, rationalité de l'écrit, je vais décrire la parenthèse comme un lieu d'enfermement de monde, comme une camisole de force en fait, comme un lieu de contrainte, comme on enferme les folies ou les fous. Eh bien, Goody donc a écrit un bouquin intitulé « La raison graphique, la rationalité liée à l'écrit » ou « L'écrit, qu'est-ce qu'il amène comme type de rationalité » plus exactement, et sous-titré, n'est-ce pas Sarah, la domestication de la pensée sauvage, la parenthèse comme domestication de la pensée sauvage du rite scolaire du charivari. Qu'est-ce qui est mis dans la parenthèse, c'est-à-dire dans la typographie? Ben, c'est le folklore scolaire des garçons élèves du collège royal de Rouen de 1820, c'est-à-dire une manifestation sonore, bruyante, collective, fait corps, hein, c'est « on », c'est plus « nous », c'est « on ». Vous savez, le début du roman, c'est « nous étions à l'étude », c'est plus le « nous », là, c'est « on ». Hein, c'est-à-dire, c'est une espèce de manifestation d'un corps de condisciples qui sont liés, qui sont socialisés par le rite, qui joue une espèce de désocialisation brutale du langage oral et du langage écrit. On pourrait le lire d'une façon théâtrale, hein. Je l'ai fait déjà, mais on vérifie l'insonorisation. On hurlait, c'est pas rien, hurler. Hein? Vous voyez, on est dans l'expressivité des corps, l'expressivité langagière, même la force violente du signifiant, l'animalisation, etc., etc. Je ne fais pas le topo. On aboyait, ben voilà, avec les imparfaits du ratif. Hein. Et vous voyez, tout ça, ça va être comprimé dans la parenthèse, pour des raisons qu'on va imaginer. On trépignait, c'est-à-dire c'est la contre-culture scolaire, où il faut être silencieux, immobile, chacun dans son espace privatif. Bon, c'est un moment de contre-culture, c'est un moment d'oralité rituel d'ensauvagement de la classe, du campus. C'est ça le campus. Campus. Bon. Et on répétait, dans une espèce d'économie folle du langage, hein, on pourrait l'inserter, je l'ai fait, hein, ou c'est faisable, avec d'autres marques d'altérité, les italiques, les points d'exclamation, les italiques qui sont construits sur la coalescence tronquée du prénom et du nom, dans leur vocalisme, puisqu'il ne s'appelle pas Bovary avec un I, il va s'appeler après Bovary avec Y, juste après. Le maître va le grammatiser, il va s'appliquer à lui faire dire, à dissocier ce qu'il a condensé, et il va lui faire dire Charles du côté de la singularité, Bovary du côté de la filiation, et Y, lettre morte, etc., etc. Bon. Alors, vous voyez, donc, au fond, ce qui est pris prisonnier de la parenthèse, c'est cette pensée sauvage du rite. Bon. Et alors, mais on n'a pas fini notre... je cherchais mes notes, en fait. On n'a pas fini notre aventure, là. C'est que cette cacophonie, cette carnavalisation, ce bazar au plus loin du silence de la ligne, de la linéarité, de cette indiscipline, hein, donc la parenthèse vise à la contenir. Containment, on pourrait dire, c'est des stratégies de containment, parce que Flaubert ne veut pas faire, là c'est l'histoire du champ littéraire, ne veut pas faire littérature, comme il dit, en sabots. Il ne veut pas faire le pittoresque de la classe. Donc il va quand même, il en a besoin, hein, de montrer ses résistances, cette indiscipline, enfin bref, une raison, mais il va le limiter. Il va le contrôler. C'est sous contrôle. Hein, c'est sous contrôle. J'aime assez à dire que ces parenthèses sont des camisoles de force, en fait. Qui en fait rendent la rage encore plus rageuse, si vous voulez. C'est ambivalent comme processus, c'est assez subtil, c'est économique au fond, stylistiquement parlant. Alors, voici pour la typographie, voici pour la sauvagerie, et il nous reste Lucie. Alors, Lucie, il fallait chercher. Alors, non, j'ai pas tout à fait fini. Au verso, vous avez les variantes. Ah oui, un peu de stylistique quand même, soyons des vrais littéraires. Deuxième extrait, c'est une des variantes de ce passage dans l'histoire génétique du texte, si vous voulez. Les parenthèses, la solution de la parenthèse, il n'a trouvé que tardivement, si vous voulez. Donc je vous l'ai mis entre crochets, c'est le folio 3V, bon, peu importe pour nous. Avait des lapsus extrêmement intéressants, lapsus calamis de Flaubert, son nom bredouillé à la chasse, parce qu'il est pourchassé, hein, vous avez vu, le même bredouillement se fit entendre couvert par les huées de la classe. Il est pourchassé comme une bête, la huée du chasseur. Bon, et alors, y a, pour les Flaubertiens, il y a un lapsus assez fameux, c'est son nom bredouillé à la chasse. Charles Bovary, et il avait écrit par exemple, sans les parenthèses, mais à titre démonstratif, si vous voulez, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette variante qui est moins puissante, parce que le flux n'est pas interrompu, et donc la violence contenue est moindre, puisqu'elle est linéarisée en quelque sorte. On criait, c'est presque des notes en fait, on criait, on miaulait, on gloussait, alors c'est aussi une animalisation, mais on répétait, on se tordait sur les bancs, on trépignait des pieds. Vous voyez ce que la parenthèse apporte comme puissance de contrainte et donc, au fond, de marqueur d'étrangeté, enfin d'hétérogénéité de cette microcosmologie que représente un rite, un ensauvagement sonore et corporel dans l'univers de la classe, du latin, de l'écriture, des versions, etc., des langues anciennes. Bon, et ça, d'ailleurs, j'ai fait arrêter sur Ridiculus Sum, vous voyez, après, il recopie du latin, etc. Bon. Alors, notre Lucie, eh ben, c'est que vous avez bien remarqué que dans l'environnement de la parenthèse, là, on peut évaluer la position idéologique ou stylistique de Flaubert. Bon. Il y a un environnement musical. C'est-à-dire qu'il y a ce moment-là de transgression des usages langagiers, des usages corporels, qui est cerné par les parenthèses, et qui est forclos d'un autre univers qui est celui de la métaphore, de la comparaison, en tout cas de la stylisation, de l'esthétisation musicale du monde. Et il y a deux mondes là. Regardez. Ce fut un vacarme, je passe sur les passés simples et tout, hein. Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond. Oh, l'espèce de métaphore un peu féline, mais bon, on ne sait pas. Mais c'est pas très... C'est un peu euphémisé déjà. Montant en crescendo. Ah, on a bien une italique là, mais sauf que c'est le langage de la musicologie. Alors qui fait écho à Charles Bovary, si vous voulez. Hein. On a ces deux mondes-là qui entrent en consonance ou en dissonance. Et c'est ça qui est intéressant. Mais l'un est enfermé, l'autre est enfermant. Bon. Et donc on va avoir progressivement ici et plus loin, c'est ça Lucie, vous verrez, c'est des hétérophonies, justement. C'est deux mondes phoniques. Et c'est deux mondes tout court, en fait. Et deux mondes stylistiques. Mais là, il y a une métaphore du même événement rituel, du même ensauvagement rituel, qui est cette fois dit hors parenthèse, c'est-à-dire hors retrait, hors arrière-plan, ou premier plan, c'est ambigu en fait, qui va être dit sous le régime de l'esthétisation, sous le régime du langage musical cultivé. Hein? Donc il y a vacarme, il y a surtout montant crescendo, après c'est un peu mixé, avec des éclats de voix aiguës. Ben, les voix aiguës, ça va préparer l'opéra, on va y arriver à l'opéra. Et puis la métaphore qui est continuée, qui est prolongée, qui est filée, hein, ce crescendo qui roule en notes isolées, vous voyez, on retrouve le vocabulaire de la musique. Se calmant à grand-peine et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc, on revient sur l'ordre linéaire, où ça hissait encore, ça et là, comme un pétard mal éteint, quelques rires étouffés. Et puis ça disparaît, ça s'estompe. Bon. Donc on a ce monde de la violence des oralités du campus de ce rite-là. Qui est pris déjà dans un univers qui est marqué, compris graphiquement, par des connexions avec l'univers musical. Et dans mon histoire de typographie sauvagerie Lucie, c'est le dernier extrait du verso, c'est que 200 pages plus loin, ou 150 pages plus loin, on va avoir une reprise de ce motif, cette thématique, enfin c'est presque un motif en fait, mais sous forme stylisée, sous forme du, c'est du langage, c'est du langage, c'est la version musicale du Charivari en fait, première version. Charles et Emma se retrouvent à Rouen, au théâtre. Monsieur Homais, enfin l'entourage, a estimé qu'ils aillent un peu s'aérer à Rouen et se cultiver. Ça serait bien. C'est là où elle va retrouver Rodolphe et c'est là où elle va retomber dans l'adultère et puis dans les. Bon, c'est là où. Ensuite, ça va dégénérer, et puis elle va s'endetter, voilà, et elle va se suicider. Bon. Donc c'est un deuxième commencement du roman. Et la foule stationnée contre le mur, parquée symétriquement entre des balustrades, à l'angle des rues voisines, donc c'est le dernier extrait, de gigantesques affiches affichées, répétées en caractère baroque, Lucie, de la mère Mou, Donizetti, Lucia, mais c'est écrit comme ça, Lagardi, Opéra. Je passe un peu. Cependant, les bougies de l'orchestre s'allumèrent, le lustre descendit du plafond, versant avec le rayonnement de ses facettes une gaieté subite dans la salle. Puis les musiciens entrèrent. C'est un nouvel incipit, si vous voulez. Parce que ce qu'elle va voir dans Lucie, ça sera l'image de ce qu'elle rêverait faire en termes d'amour, de romantisme, etc. Bon, une espèce de mise en abîme hein, et d'écho avec le premier incipit. Puis les musiciens, ils y sont, entrèrent les uns après les autres et ce fut d'abord un long charivari. Ah, il est là, mais c'est pas le même. Un long charivari, donc l'ensauvagement a été réduit, civilisé. Un long charivari de basses ronflantes, de violons grincent. On dit comme ça d'ailleurs, hein. C'est le terme correct. De pistons trompettants, de flûtes et de flageolets qui piaulaient. Mais on entendit trois coups sur la scène et c'est la dernière partie de Madame Bovary et la tragédie qui va se dérouler. Voilà, donc c'est une histoire de typographie et de domestication de la pensée sauvage par la typographie et ensuite de stylisation, ou en même temps d'ailleurs déjà un travail de stylisation, de métaphorisation, d'artification de la protestation charivarique et en écho ensuite sous forme thématisée comme on trouve dans les dictionnaires d'aujourd'hui ou du 19e cette idée que dans les répétitions ça grince, c'est une espèce de musique hésitante enfin voilà. Donc c'est ce cheminement-là que je voulais vous présenter.